Les manifestes qui ont changé le monde. Gérard Courtois, Didier Lesky.
Depuis deux siècles, ils ont fait date et ils ont fait école. Utopiques et prosélytes, didactiques ou dogmatiques, des manifestes ont scandé l'histoire des mouvements politiques et artistiques. Textes de rupture, portés par les avant-gardes du moment, ils ont ouvert des brèches, inventé des modernités et donné raison à Karl Marx, les idées peuvent être des forces matérielles capables de changer le monde. Aujourd'hui, le manifeste de René Dumont pour une autre civilisation.
Le combat écologique ne manque pas de précurseurs. On peut évoquer l'Allemand Alexandre von Humboldt, magnifique savant globe-trotteur du début du 19e siècle, ou encore l'Américain Henry David Thoreau, ancêtre des survivalistes au milieu du 19e siècle, dans les années 1850, ou Ernst Haeckel, le biologiste allemand qui inventa le mot et le concept d'écologie en 1866, plus récemment l'Américaine Rachel Carson, pionnière de la dénonciation des pesticides avec son livre « Événement, printemps silencieux » en 1962. Ceux-ci et d'autres lancèrent les premières alertes sur les menaces que les sociétés industrielles faisaient peser sur la planète. Mais s'il est bien en France, en tout cas, un manifeste fondateur de l'écologie politique, c'est celui que publia René Dumont pour promouvoir sa candidature à l'élection présidentielle française en 1974. Intitulé « Pour une autre civilisation », ce texte n'a rien perdu de son actualité. Dangereuse mystique d'une croissance sans frein, gaspillage des ressources naturelles, pillage des pays du Sud, ravage des pollutions, saccage des milieux de vie, autant d'alarmes confirmées depuis. Avec sa crinière blanche et son pullover rouge, avec sa radicalité bienveillante, René Dumont a fait entrer l'écologie dans la conscience collective et dans le champ politique. Il voulait un système économique mondial, respectueux de la nature. Il appelait de ses voeux une mobilisation à la fois citoyenne et scientifique, capable d'inventer ce projet. Il esquissait des solutions et des alternatives. Bref, il a ouvert la voie. Le demi-siècle qui s'est écoulé depuis n'a rien invalidé de cette ambition, au contraire. Mais il a démontré combien elle s'est heurtée, combien elle s'était heurtée, combien elle se heurte toujours, aux réalités, à la procrastination, voire au déni. Pour nous éclairer sur ce combat, celui de René Dumont, celui de ses héritiers, nous avons le plaisir d'accueillir Cécile Duflot. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Duflot. De l'écologie politique, vous connaissez toutes les facettes. Vous avez été secrétaire nationale du Parti écologique, Les Verts, puis Europe Écologie Les Verts, entre 2006 et 2012. Élu député en 2012, vous êtes pendant deux ans ministre de l'égalité des territoires et du logement dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, sous la présidence de François Hollande. Et depuis 2018, vous dirigez l'association Oxfam France, qui se consacre notamment à la lutte contre la pauvreté. Et nous accueillons également Alexis Vrignon. Bonjour Alexis Vrignon.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université d'Orléans. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage de référence sur la naissance de l'écologie politique en France, publié aux presses universitaires de Rennes. Et il y a quelques mois, vous avez également publié France grise, France verte, une histoire environnementale de la France depuis 1945 chez Armand Collin. Alors, on va commencer par ce personnage, je le disais, un peu charismatique et étonnant, qui apparaît sur la scène politique en 1974, René Dumont. Qui était-il? Quel a été son parcours? Quelle a été son histoire et son engagement pour cette cause écologique? Alexis Vrignon.
Bien, effectivement, c'est un long parcours puisque René Dumont est né au début du XXe siècle dans une famille en ascension sociale par les études, une famille de républicains laïcs. Il fait des études brillantes à l'Institut National d'Agronomie et devient donc ingénieur agronome et assez vite enseignant à l'INA, donc maintenant AgroParisTech à l'heure actuelle. Et à partir de là, eh bien, il va parcourir le monde dans le cadre de ses fonctions pour conseiller sur ces questions agronomiques dans le monde entier, et seul jusqu'à sa retraite.
Notamment le tiers-monde.
et notamment le tiers-monde, mais pas uniquement, parce qu'il fera aussi beaucoup de voyages aux États-Unis, par exemple. Donc il y a cette première facette, mais s'y ajoutent d'autres facettes, puisque c'est un militant engagé, souvent du côté des socialistes, à plusieurs moments de sa vie, par exemple. C'est également un auteur prolifique, dès les années 50-60, avec notamment de beaux succès de librairie, avec notamment L'Afrique noire et mal partie, qui...
1962, je crois.
Voilà, et qui vend, il en vend environ 250 000 exemplaires, ce qui... Malgré tout, c'est vraiment un beau succès librairie. L'Utopie ou la mort, dont on reparlera, est également un beau succès librairie. Donc c'est quelqu'un qui, malgré tout, est relativement connu des Français dans les années 60 et 70. Il passe dans les médias, passe même à la télévision au début des années 70. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est engagé sur ces questions-là. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on viendra le trouver pour qu'il soit candidat.
Et alors, Cécile Duflot, pour vous qui êtes pas contemporaine de René Dumont, c'était une figure tutélaire pour vous, René Dumont ?
René Dumont, c'est le moment en fait où l'écologie devient politique. C'est-à-dire où il y a, même s'il y a eu quand même quelques expérimentations des listes municipales, mais en 74, avec l'aura de l'élection présidentielle, l'écologie rentre dans le champ politique. Dans des circonstances d'ailleurs très compliquées, parce que beaucoup de gens pensent que c'est complètement absurde, il n'y a aucun sens. Et donc moi je suis de cette génération où beaucoup de gens qui étaient au pouvoir quand je commence à faire de la politique considèrent que l'écologie politique c'est encore un intrus. Maintenant il y a tout un tas de gens qui sont nés depuis et qui... voilà.
Mais par exemple, vous aviez lu, vous avez commencé à lire René Dumont quand vous engagez en écologie.
C'est plus que lire, c'est que il y avait déjà des témoignages vidéo et audio, donc sa voix, ce qu'il portait, son discours, c'est une figure tutélaire au sens où c'est grâce à lui ou avec lui que naît l'écologie politique. Moi, ma figure tutélaire, à moi, c'est plutôt André Gorz. Enfin, c'est sa lecture qui m'a le plus marquée. Mais René Dumont, c'est un peu comme le pape, si vous voulez. C'est le début, quoi. Et donc c'est
une image.
C'est le pape ou c'est le grand-père ?
C'est pas le grand-père parce que j'allais dire que c'est ce qui fonde la légitimité. Il y a quelque chose de l'existence même de l'écologie politique qui est liée à René Dumont. S'il n'avait pas osé, s'il l'avait pas fait, on ne sait pas à quel moment ça aurait commencé, etc. Mais il fonde quelque chose. Et puis il fonde aussi le fait qu'un certain nombre de gens se souviennent de sa campagne, ont voté pour lui quand ils étaient jeunes. Enfin, il fait basculer l'écologie dans le champ politique au sens strict du terme. C'est-à-dire que, à partir du moment où il a été candidat, la question de candidat de l'écologie devient une question pas évidente, très contestée, mais en tout cas une question qui se pose. Avant, elle ne se posait pas.
Alexis Vrignon, Cécile Duflot vient de dire il a osé, mais justement, on va le chercher parce que il n'a pas eu d'engagement, à part peut-être au moment de la guerre d'Algérie, il n'a pas de désengagement, vous avez dit socialiste, il est très pacifiste, mais il n'a pas d'engagement militant très affirmé à l'époque.
Non, parce que ce n'est pas un homme d'appareil, René Dumont, donc à chaque fois qu'il rejoignait un groupe, assez rapidement, finalement, il s'engueulait avec les uns et les autres, et ça tenait jamais très très longtemps. Mais c'était quelqu'un qui était dans un univers politique, très clairement. Mais en 74, faut jamais l'oublier, c'est une élection qui n'était pas prévue à la base, c'est dû au décès de Georges Pompidou. Et à ce moment-là, dans l'urgence, dans l'improvisation, se pose la question pour un certain nombre de militants, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est là que finalement, il y a différents personnes qui sont envisagées, qui se récusent pour différentes raisons.
Il y a Charles Piaget, c'était au moment des grèves ouvrières de l'IP.
Par exemple, oui. Il y a un auteur qui est un peu oublié maintenant, qui est Philippe Saint-Marc, qui avait connu un beau succès de librairie avec un livre Socialisation de la nature, qui est approché, qui se récuse en disant non, je ne pense pas que ce soit la bonne solution, par exemple.
Et qui va, si j'ai une mémoire, fournir un peu le canevas de ce que Giscard d'Estaing, oui, à l'époque, va proposer sur ce terrain-là.
Très clairement, dans l'entre-deux-tours, Giscard d'Estaing se dit qu'il y a un coup à jouer et va le chercher pour lui demander justement une sorte de programme clé en main qui sera plus cohérent finalement que ce que proposait François Mitterrand à la même période finalement sur cette question-là.
On va évoquer cette campagne de 74, mais revenons quand même au bouillon de culture dans lequel tout ça émerge au début des années 70. Il y a le rapport du Club de Rome, il y a des journaux qui se créent, La Gueule Ouverte ou d'autres. Il y a tout un mouvement qui commence à bouillonner. Alexis Vrignon, dites-nous un peu comment ça se passe et qu'est-ce qui se passe ?
Ce qui se passe déjà, c'est que il faut se souvenir que les années 60, l'environnement quotidien des Français change. Je répète souvent que la surface urbanisée de la France double dans les années 60. Donc tout est transformé en fait. Et ça interpelle beaucoup de gens. Ça interpelle des protecteurs de la nature qui se rendent compte que on peut plus se contenter de faire de l'éducation populaire, il faut aller plus au-devant des pouvoirs publics qui ne les écoutent pas forcément. Ça interpelle également toute une série de militants sensibles à, aux pensées critiques des années 68 et qui se disent que cette modernité, elle a des problèmes en termes d'aliénation, pour reprendre des termes de l'époque.
De mode de vie, disait-on.
De mode de vie, société de consommation, enfin c'est le moment où Pérec publie les choses, par exemple, aussi, qui s'interroge.
Ce film célèbre, L'an 01, où on arrête tout et puis on essaye de réfléchir, justement, et on ne veut plus de la voiture.
Voilà, avec toute cette interrogation sur cette modernité, est-ce qu'on en est en contrôle ou pas ? Et donc, les années 60, on s'interroge là-dessus, et le début des années 70, c'est le moment des premières structures qui apparaissent. Les Amis de la Terre, en 1970. Un petit peu avant, il y avait la Fédération Française des Sociétés de Protection de la Nature, maintenant France Nature Environnement, par exemple, qui apparaît en 68. Et, vous y avez fait allusion, des périodiques, qui sont essentiels également dans cette diffusion d'une pensée, cette structuration d'une pensée. Le Sauvage, La Gueule Ouverte, qui sont vraiment des repères pour toute une génération de militants un peu partout en France qui se retrouvent dans ces lectures, qui progressent dans leur réflexion dans ces lectures, qui s'engagent aussi sur le terrain au travers de ces lectures. Donc il y a tout un bouillonnement qui a le sentiment d'être un peu bloqué parce que les pouvoirs publics ne répondent que peu à leurs sollicitations.
Et j'ajoutais le rapport du Club de Rome qui est de 70, qui pour la première fois on va dans le mur. Si je résume rapidement, le thème qui émerge à ce moment-là est celui de la croissance zéro, déjà.
Oui, et c'est d'autant plus intéressant que ça interpelle personnellement René Dumont. René Dumont, dans les années 50, c'était quelqu'un qui était un apôtre de la modernisation agricole. Il pensait que pour résoudre la question de la faim dans le monde, pour soulager les paysans, il fallait moderniser, il fallait utiliser des produits phytosanitaires, c'était la voie d'avenir. Et ça a été quelque chose qui était très structurant pour lui. Et il évolue là-dessus, notamment à la faveur du rapport du Club de Rome. Ce qui le conduit à écrire L'Utopie ou la mort en 73, qui est très intéressant parce qu'on a quelqu'un de relativement âgé qui avoue, voilà, il faut changer certaines choses, certaines convictions, il faut les changer, et notamment ce rapport à la modernisation, parce que justement, nous sommes dans un monde fini, donc une croissance infinie ou une modernisation sans fin définie n'est plus possible. Donc on voit bien que René Dumont est directement sur ces questions-là.
Cécile Duflot, justement, le rapport du Club de Rome, il y a déjà cette idée qu'il faut scientifiquement argumenter. C'est pas simplement une prise de position politique, c'est pas simplement un discours. Il faut l'asseoir sur quelque chose de scientifique. Et ça va durer très longtemps, cette idée qu'il faut asseoir l'écologie sur une scientifique.
C'est toujours le cas. Et il y a une tension très forte entre une vision d'une société qui serait différente, qui serait une société plus apaisée, etc., avec une dimension volontariste, et parallèlement une sorte d'obligation, en disant de toute façon, ce système-là va dans le mur. Donc il y a eu aussi cette tension chez les écologistes, de savoir est-ce que c'était par volonté, par foi dans un modèle différent, ou est-ce que c'était par nécessité. Et d'ailleurs, ça explique beaucoup d'un certain nombre de tensions qui ont pu exister dans le mouvement écologiste, mais surtout ce qui s'est passé, c'est qu'après cette période un peu béni, il y a eu quand même un recul très fort dans les années 80 et même dans les années 90 avec en fait une espèce de rouleau compresseur qui disait vous nous empêchez d'avancer, enfin soit c'est très pour répondre à la première objection, votre truc c'est sympa hein, les fleurs, on est tous amis, on est tous égaux, etc. Mais c'est très utopique et ça n'a pas de sens en gros et on oppose à ça le progrès. Et la deuxième, c'est une sorte de soit de déni, soit de cynisme, pour essayer d'atténuer toute la dimension d'analyse scientifique. Et on l'a évidemment vu avec tous les travaux du GIEC, où il y a eu beaucoup d'énergie employée, soit par cynisme de la part de ceux dont les intérêts étaient attaqués, soit par mépris, en fait, hein, de dire tout ça, c'est vraiment, ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt. Alors qu'on voit que toutes les bases scientifiques d'analyse tant économique que sur les atteintes au climat ou à la biodiversité, enfin le printemps silencieux sur les pesticides et l'effondrement des oiseaux, c'est très ancien.
Justement, vous avez parlé de tension et de système. On est 6 ans après 1968. En 1974, dans le discours de René Dumont, c'est peut-être une tension que vous allez connaître dans le mouvement écologiste, il y a l'idée d'une critique radicale, au fond, du système capitaliste ou de l'impérialisme, puisqu'il a parlé de l'Afrique, etc. C'est ça la tension ?
Oui, alors, enfin, ce qui est très intéressant, alors je souriais tout à l'heure parce que j'ai parlé de Pape et je me disais qu'en fait, la critique de Dumont sur notamment la dimension de la relation avec le Sud et la prédation sur le Sud, c'est totalement ce qu'on retrouvera dans le texte du Pape François Laudato Si quand il parle de dette écologique. C'est-à-dire, il y a aussi cette idée d'écologiste du Sud qui intégrait pas seulement une dimension d'environnement dans la proximité immédiate, mais de vision planétaire des enjeux. Alors évidemment, cette dimension planétaire des enjeux traduite dans des échéances politiques de très court terme, voire très politiciennes, ça a aussi parfois perdu les écologistes. Mais évidemment que cette tension entre la vision d'un monde idéal et l'obligation faisait que parfois on disait que ça manquait de souffle, parce qu'on c'était en fait une sorte de contrainte. On disait, ah bah voilà, si on fait pas ça, ça va être la catastrophe, en gros. Et puis d'autres qui étaient sur une dimension totalement principielle de projet de société et qui, du coup, se faisaient contrarier par un discours sur non, mais tout ça, c'est bien sympa, mais il y a la réalité du monde, mais il y a la concurrence, mais il y a la manière de produire, mais il y a le progrès, etc.
Alexis Vrignon, Cécile Duflo évoquait, comment dire, les petites fleurs et l'utopie. C'est au fond ça qui a marqué cette campagne de 74. C'est au fond ça qui a justifié ensuite une forme, ce qu'elle évoquait également, une forme de condescendance, voire de mépris à l'égard de tout ce mouvement. Comment ça s'est passé, cette campagne?
Alors, la campagne s'est passée d'une manière improvisée, ça il faut toujours l'avoir à l'esprit, avec un petit groupe de personnes réunies surtout à Paris qui ont improvisé tout en fait. Il fallait improviser une équipe de campagne, il fallait improviser un programme en l'espace de quelques semaines. Ce qui, semble-t-il, a représenté une très belle aventure pour toutes les personnes qui y ont participé. Et ça, je pense que ça a aussi compté dans des contacts qui ont perduré dans le temps. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Après, effectivement, le choix aussi en partie de René Dumont, ça a été de faire une campagne relativement décalée sur le plan de la communication. Il apparaissait à la télévision sans cravate, avec un pullover rouge, parlant de choses différentes. Donc il y avait un décalage assumé par rapport à la classe politique de l'époque. On était du temps de l'ORTF, faut pas l'oublier, en termes de communication,
c'est différent. Le pullover rouge est un signe à la gauche? C'est pourquoi le pullover rouge, on le sait?
Alors, je pense qu'il y a en partie cette allusion à la gauche, hein, très clairement, pour quelqu'un qui vient de ce milieu-là. Il y avait une part de provocation pour vraiment trancher à la télévision. Faut pas oublier que passer à la télévision quand on était un opposant politique du temps de l'ORTF, c'était pas simple. C'est d'ailleurs l'une des raisons, d'ailleurs, pour laquelle il choisit de se faire campagne. En disant, là, vu la campagne officielle, nous passerons à la télévision. Et de fait, c'est aussi beaucoup ce qu'on retient de la campagne René Dumont. Ce sont ces passages à la télévision qui sont effectivement assez marquants parce qu'assez différents. Mais qui impriment l'idée que, effectivement, l'écologie politique est dans une communication autre qui va prêter le flanc chez les opposants à l'idée qu'il ne serait pas sérieux parce qu'il ne serait pas dans les codes de tous. Donc c'est une difficulté dans laquelle l'écologie politique va s'enferrer par la suite.
Cécile Duflo, vous avez évoqué cette dimension, enfin cette articulation entre le projet et la scie scientifique de l'analyse des dérives de la situation planétaire. Mais il y a un autre principe qui est posé par René Dumont dans son manifeste, dans cette espèce de perspective qu'il trace, c'est au fond que le combat écologique est l'affaire de tous, que c'est à la fois l'affaire des scientifiques et des citoyens, une affaire autogérée au fond sur le terrain. Est-ce qu'il y a dès ce moment-là, à vos yeux, une sorte d'hésitation ou de défiance, en tout cas, à s'engager sur le jeu politique traditionnel? J'ai l'impression que les écologistes hésitent sur cet engagement, ce type d'engagement.
Alors, ils hésitent moins sur le niveau local, mais il y a toujours une relation très particulière entre les écologistes et le niveau national. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que dans les racines du mouvement écologiste, mais je parle sous le contrôle d'Alexis Vignon, il y a le lien avec le Sud, l'anti-impérialisme, la lutte contre le colonialisme. Donc il y a cette idée de défiance vis-à-vis d'une autorité nationale et il y a le pacifisme aussi, hein, bien sûr, donc avec une vision du risque du nationalisme, tel d'ailleurs que l'aura bien dit François Mitterrand avec le lien avec la guerre. Et puis aussi parce que l'intérêt général à l'époque et les projets qui sont des projets extrêmement productivistes sont portés par le niveau national. Une organisation de la France qui repose sur les préfets avec très peu de décentralisation. Et donc,
C'est à ce moment-là, par exemple, qu'est mis en place tout le programme de construction de centrales nucléaires.
De centrales nucléaires, le TGV, les autoroutes, absolument. C'est comme ça qu'on voit le progrès.
Airbus,
et
Ariane.
Et le progrès passe tout droit. Le progrès passe tout droit. Et donc, comme il y a eu cette défiance qui s'est constituée à l'égard d'un intérêt général vu comme anti-écologiste, il y a une défiance, en fait, assez implicite ou plus exactement un certain malaise vis-à-vis de la dimension nationale, qu'à mon avis, il existe toujours aujourd'hui. Et on a souvent entendu les écologistes politiques dire, enfin c'est pour ça que on le voit d'ailleurs là dans la période qui s'ouvre, les élections européennes, c'est notre élection. En gros, nous, c'est les communes et l'Europe. Mais le niveau national, il y a toujours eu ce malaise. Moi, je l'explique par cette dimension très particulière de l'intérêt général porté par le progrès et l'organisation d'une France très autoritaire dans la mise en œuvre de ses projets. Alors, évidemment que tout ça a changé avec la décentralisation, mais il y a toujours eu cette ambiguïté. C'est pour ça que la présence de René Dumont est si fondatrice. C'est que le moment où on comprend que si on n'est pas présent à cette élection, si on ne s'exprime pas dans cette élection, si on ne prend pas l'utilisation de cette élection, on passe à côté du jeu politique traditionnel. Mais c'est pour ça que la tension, elle est toujours là. Elle est toujours là aujourd'hui, d'ailleurs, hein, chez les écologistes.
Mais justement, vous parlez de l'État. Il y a quelqu'un qui va jouer un grand rôle dans cette campagne, c'est Brice Lalonde. En 1980, quand il est en campagne dans son programme, il milite pour un État minimum. Il y a l'idée que l'État, c'est une superstructure qui va à l'encontre de l'écologie. C'est ça, un peu, la
C'est parce que l'État, en fait, je ne crois pas que ce soit l'État. Je pense qu'on a besoin d'une programmation et d'un travail et de solidarité et qu'il faut le faire à des niveaux supérieurs et que l'État peut l'être. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque, l'État, c'est vraiment l'outil de non-préservation des espaces naturels. Voilà, on va dire les choses telles qu'elles sont. Et d'ailleurs, y compris dans les années 80-90, c'est de l'Europe que viendront un certain nombre de directives qui seront contraignantes pour l'État pour intégrer un certain nombre d'avancées environnementales. Mais sinon, à part les parcs nationaux, en gros, les avancées en matière environnementale sont peu portées par l'État. Et la logique de grands projets, la logique de déclaration d'utilité publique, c'est une logique d'écrasement de tout débat au niveau local et aussi de toute prise en compte des questions environnementales.
C'est pourtant le moment où est créé pour la première fois un ministère de l'Environnement, en 1971, avec Monsieur Poujade, le maire de Dijon, qui va porter une politique nouvelle. Il y avait rien à en attendre, Alexis Vrignon, dans la mouvance écologique à ce moment-là, c'était pas vécu comme un progrès ou une avancée significative?
Pas vraiment, parce que, et pendant très longtemps, le ministère de l'Environnement restera un ministère faible en France. Faible d'une part parce qu'il est peu doté en moyens financiers et humains, ce qui est aussi un peu le nerf de la guerre pour un ministère. Il n'a pas de service déconcentré, donc il est vraiment uniquement centré sur Paris pendant très longtemps. Et parce que, face à d'autres ministères poids lourds, il perdra systématiquement les arbitrages dès cette époque. L'industrie et l'agriculture notamment, qui sont les deux ministères qui voient d'un assez mauvais œil finalement la naissance de ce nouveau ministère qui fatalement leur retire normalement quelques prérogatives. C'est comme ça que ça se passe. Ce qui fait que, quand le ministère est créé, il est pensé comme une sorte d'autorité morale qui devrait donner un peu de sens finalement à l'action, mais l'orienter vraiment de manière assez légère. Donc on n'est pas du tout dans un changement de paradigme dans les politiques publiques à cette époque. Et c'est la raison pour laquelle effectivement il y a cette tentative d'une partie en tout cas des écologistes de se dire allons en politique parce que c'est là qu'on nous écoutera si on pèse un petit peu en politique. Mais le ministère de l'Environnement pendant très longtemps restera faible.
Mais vous avez parlé, Cécile Duflot, du niveau local, et en même temps, il va y avoir, à partir du début des années 70, une lutte qui va être marquante pour l'écologie politique, pour son développement. C'est autour du Larzac et du plateau du Larzac, où là, vous avez effectivement l'État qui met en place...
L'armée, on est au cœur de
ce qui est critiqué, avec un René Dumont qui était pour l'objection de conscience, qui était un pacifiste convaincu, puisque au moment de sa mort, il demandera ce qu'il y ait la chanson du déserteur de Boris Vian qui soit passée. Et là, on a une évolution quand même.
Alors, je pense qu'en plus, c'est une génération marquée par la guerre d'Algérie, qui est encore un grand tabou, qui est une génération qui a brisé beaucoup de jeunes qui ont été appelés. Et autour de tout ce qui fait la mouvance écologiste, en fait, il y a différentes agglomérats qui se collent. Vous avez parlé des LIP et donc de la logique de l'autogestion et de ce qui pouvait exister. Mais il y a aussi tout le mouvement féministe, parce qu'on dit souvent que c'est au moment de la création du parti Les Verts que les statuts ont été paritaires. C'est pas vrai. C'est un an et demi après que les statuts deviennent paritaires, c'est-à-dire que toutes les responsabilités, toutes les instances doivent être paritaires. Mais ça s'explique parce qu'en fait, il y a eu en 1977 des listes féministes dans un certain nombre de communes et il y a une sorte de fusion implicite en disant « Ok, on veut bien fonder avec vous ce parti, mais il faut qu'il y ait la parité dans les statuts des écologistes. Et que donc, il y a en fait un conglomérat, on va dire, d'histoires militantes qui trouvent, en tout cas, au sein de l'écologie politique, la possibilité de déployer d'autres thématiques. C'est pour ça qu'on se pose souvent beaucoup de questions sur pourquoi les écologistes sont très liés à la question de la lutte contre les discriminations. Parce que c'est dans leur histoire, ça s'est structuré de cette manière-là, ce qui rend aussi des fois... ce qui pose des questions de lisibilité. Mais ce qui est très clair, c'est que la question du rapport à l'armée est très liée à la fois à la dimension pacifiste, mais aussi à la dimension de la puissance que pouvait avoir l'armée dans la stérilisation de certains territoires, dans la prise en main de certains territoires. Alors ça vaut pour le Larzac, qui est évidemment très identifié, mais ça a été le cas dans d'autres endroits.
Il faut rappeler ce qu'était le Larzac, peut-être.
Un camp militaire où les agriculteurs n'avaient plus la possibilité, enfin les gens qui vivaient étaient tout simplement dégagés au nom de l'intérêt supérieur de l'État, qui était de déployer ce camp militaire dans une période de tension.
Oui, de missiles nucléaires en plus.
Ah oui, alors parce qu'il faut
pas
savoir
pas simplement un camp militaire.
Il faut savoir qu'à cette époque-là, le programme électronucléaire battait son plein, ce qui a dans deux dimensions, les centrales qui étaient, j'allais dire, la vitrine officielle d'un programme électronucléaire militaire qui se déployait sous toutes ses composantes, les sous-marins, les avions et les missiles. Et l'aviation pour protéger les sites des missiles. Donc il y avait toutes ces questions qui se mêlaient, mais il y avait vraiment, vraiment, et on le retrouvera dans les ZAD, l'idée de du vol de ces territoires à ceux qui le vivaient, qui était de façon plus générale la façon dont les écologistes avaient ou ont de voir l'idée que, en fait, on empêche, en privant les gens de leur espace de vie, alors ça vaut pour l'échelle planétaire avec la question climatique, on les prive de leur capacité de vie, tout simplement. Donc c'était un peu, alors c'était, j'allais dire, tellement hypertrophié par la dimension militaire, mais c'est les mêmes luttes, en fait. Hein, c'est les mêmes luttes que sur la question des méga-bassines ou ce qu'on retrouvera avec la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. C'est la même logique. En fait, c'est l'idée aussi que les habitants de ce territoire sont dépossédés de toute décision sur leur environnement.
Et le début d'un mélange militant, vous avez parlé des féministes, des listes en 1977, avec en particulier des listes d'extrême-gauche, et justement, il y a deux moments où on va avoir cette fusion militante, c'est Creys-Malville, ces affrontements, vous avez parlé des ZAD, et puis Plogoff, hein, 1977-1980, Alexis Vrignon.
Effectivement, peut-on parler de fusion? Je suis pas sûr, parce que les gens arrivent...
De rencontre
plutôt, parce que les gens arrivent avec leur vécu militant, les combats qu'ils jugent les plus importants et qu'ils essayent d'articuler, et cela va être une des difficultés finalement pour la mouvance écologiste. C'est-à-dire qu'ils se rencontrent sur le terrain, à la faveur de luttes communes, parfois au moment d'élection, mais toute la question, est-ce que il peut avoir une maison commune finalement pour tous ces militants? Et c'est la raison pour laquelle dans les années 70, il n'y a pas de parti écologiste. Il y a des listes qui se font à chaque élection, ils appelaient ça des structures biodégradables, ils aimaient bien le terme, parce que aussi c'est un moyen pour eux de gouverner cette diversité en fait, parce que au sein d'une même organisation, ça aurait été difficile de les faire cohabiter, en tout cas dans les années 70. D'autant qu'il y avait un repoussoir dans ce domaine-là, c'était le Parti communiste. En termes d'organisation, c'était ce que ne voulaient pas, finalement, les écologistes. D'où cette diversité, d'où ces structures biodégradables.
France Culture, les manifestes qui ont changé le monde. Gérard Courtois, Didier Lesky.
Il y a une dernière dimension dans ce manifeste de Dumont, c'est l'articulation entre le social et la question écologique. Il le dit très clairement, la qualité de vie prime sur le niveau de vie, ou doit en tout cas être aussi importante que le niveau de vie. C'est déjà le débat actuel, fin du monde et fin du mois, semble-t-il.
Il y a une idée de décroissance déjà peut-être un peu.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que souvent on a dit, en gros, les tensions qui ont pu exister entre... on va dire les mouvances politiques issues du mouvement ouvrier, donc de la gauche traditionnellement, et les écologistes, c'était vous vous occupez de la nature, nous on s'occupe des humains, vous vous occupez des générations futures, nous on s'occupe de celles d'aujourd'hui, et vous vous intéressez aux petites fleurs et aux petits oiseaux, nous on s'occupe d'emploi. En gros, c'était ça, les divergences qui existaient. Alors que depuis le début, là pour le coup, il n'y a jamais eu en France un mouvement écologiste purement environnemental. Ça n'a jamais été ça. C'est tout, les questions sociales ont toujours été très présentes. Et l'analyse économique...
Même dans les Amis de la Terre ?
Oui, même dans les Amis de la Terre. Et très fortement dans les Amis de la Terre. Ça m'a beaucoup marqué, cette analyse complètement erronée, parce que les mouvements deep écologistes En gros, en France, ils n'existent pas. Enfin, ils n'ont jamais existé. Ils font. C'est pas du tout là que naît le mouvement écologiste. Et effectivement, dans le manifeste de René Dumont, c'est très clair. Dans son expression publique, c'est très clair. La dimension de la priorité accordée aux humains et à l'humanité, elle est dès le début. C'est pas la nature qui doit gagner sur l'homme ou l'homme qui est méchant avec la nature. C'est le système que les hommes ont mis en place aujourd'hui, qui est dysfonctionnel, mais ces humains ont la capacité de mettre en place un autre système. Enfin, les bases, dès l'époque, sont très claires et lient vraiment les questions sociales et les questions environnementales, même si on a l'impression, effectivement, qu'on remet ce sujet sur le métier. Et je pense que si les écologistes ont été dépossédés de cette dimension sociale, c'est notamment parce qu'une part de la gauche a absolument tenu à imprimer ce discours-là pour préserver leur espace.
J'allais dire leur fonds de commerce.
Oui, parce que c'est faux quand on se réfère et aux textes et aux analyses et aux personnalités. Aucun écologiste de cette époque fait primer la nature de manière exclusive sur les humains. Au contraire, les deux sont toujours très liés.
Alors, René Dumont obtient, il faut quand même le rappeler, 1,35% des voix.
32, mais oui.
32% en 1974. Quel bilan les écologistes tirent de cette première expérience, Alexis Vrignon?
Alors, le bilan est forcément contrasté. Bien sûr, René Dumont avait aucunement l'intention d'être élu président de la République. Mais il y avait l'idée de faire connaître ce combat, faire connaître le terme écologique, qui était très peu connu en dehors des militants à cette époque. Et à ce niveau-là, le pari est relativement tenu. Les sondages montrent que après l'élection, les gens identifient le terme, à défaut de savoir exactement ce qu'il recouvre. Ils identifient la question des enjeux environnementaux qui étaient discutés dans d'autres sphères. Donc, il y a une dimension de popularisation de cette question-là,
de pédagogie
qui est atteinte. Toute la question après, c'est ben justement le jour d'après. Que fait-on une fois que l'élection est passée? Et c'est là que la diversité du mouvement, qui est intrinsèque, rend difficile finalement le fait de déterminer une position commune. Ils se réunissent quelques temps plus tard dans le Loiret pour faire le bilan et finalement ils commencent à s'écharper un petit peu sur les orientations, sur justement est-ce qu'il faut une structure commune, est-ce qu'il n'en faut pas, est-ce qu'il faut être systématiquement présent aux élections, est-ce que ce sont les luttes sur le terrain qui doivent primer? Et donc c'est vrai qu'il y a finalement ce lendemain qui est un peu difficile, d'autant que, rappelons-le, René Dumont a toujours été clair sur le fait qu'il ne voulait pas être le leader de ce mouvement. Il ne voulait pas, justement, il en est l'incarnation dans un sens, l'incarnation publique, mais ce n'est pas un homme d'appareil qui voulait gouverner le mouvement écologiste, très clairement.
Et du coup, Cécile Duflot, la structuration du mouvement écologique va être d'une certaine manière très lente. C'est en 1984 qu'il va y avoir cette création des Verts, et au début c'est assez faible, il y a un millier d'adhérents, c'est cela?
Oui, à l'AG de Clichy, il y a, c'est ça, un peu plus de 500 personnes qui sont présentes, je crois, mais avec beaucoup de tensions, avec beaucoup de reproches de beaucoup de militants écologistes très sincères qui considèrent que c'est comme une trahison de créer un parti. D'ailleurs, il s'appelle pas
parti,
il s'appelle mouvement, il a un nom à rallonge, et puis le nom de code, c'est les Verts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette idée de le rapport au parti. D'ailleurs, ça se voit dans les statuts, dans la manière de faire vivre la démocratie au sein des Verts. Il y a cette défiance qui est très grande.
Mais pourquoi une telle réticence?
Alors, je pense que c'est d'ailleurs, c'est intéressant ce que vient de dire Alexis Vrignon, c'est exactement ça. C'est que, de fait, il avait une position de leader, René Dumont, qui lui a pas été contesté pendant la campagne, les gens étaient en phase avec ce qu'il a dit, mais il a immédiatement dit « Ah, mais moi, je veux pas être chef ». Et donc, cette défiance à l'égard du leadership et de l'organisation et de l'autorité, ben ça va irriguer toute l'histoire des écologistes jusqu'à aujourd'hui. Et ça rajoute une difficulté face à l'élection présidentielle, parce que entre 1,32 qui est le score donc de René Dumont et celui d'Eva Joly, qui est quasiment un point au-dessus.
Eva Joly en quelle année, il faut rappeler?
Eva Joly 2012, Dominique Voynet 2007, 1,57.
Et il n'y a que Noël Mamère qui va arriver à...
Oui, après avoir perdu la désignation, je rappelle. Hein.
Oui.
Noël Mamère perd la désignation face à Alain Lipietz. À chaque fois, d'ailleurs, les primaires de désignation des candidats écologistes, sauf la dernière fois,
sont des crises.
Ont toujours été le choix d'un candidat qui n'était pas le candidat ou la candidate le plus identifié, connu ou qui semblait évident. Avec, je pense, cette espèce de réaction du corps collectif qui est à la fois de la prudence.
La peur du chef qui pourrait émerger.
pas qui pourrait émerger, mais d'un malaise par rapport à l'incarnation et au leadership.
C'est la fibre libertaire fondamentale.
C'est une partie de la fibre libertaire, c'est une partie qui est liée à l'idée de la préservation. Je parlais tout à l'heure de « on doit être seul à décider chez nous ». C'est comme ça qu'il y a toujours aujourd'hui, chez les écologistes, des stratégies qui sont décidées très localement, y compris lors des élections régionales, alors que c'est une élection qui a une audience nationale. Du coup, quand vous avez des stratégies très différentes, c'est difficilement lisible. Donc, ça fait partie du patrimoine commun des écologistes. Et c'est ce qui fait aussi qu'il y a cette difficulté de penser, d'anticiper, de construire une stratégie, notamment à l'élection présidentielle, qui a toujours été plus vue, comme depuis l'époque de Dumont, comme un moment de visibilité. Il faut avoir un candidat pour qu'on soit dans les débats, mais avec pas de stratégie construite à moyen long terme pour gagner, en fait.
Mais donc, il n'y a pas l'idée qu'à un moment donné, on va assumer l'ensemble du fonctionnement de la société à travers une victoire électorale ?
Alors, je disais souvent, c'est toujours le cas chez les écologistes, le débat a toujours été la participation au gouvernement et la participation d'ailleurs aux exécutifs. Au niveau local, ce débat a toujours existé. Les socialistes, ils ne sont jamais posé la question de savoir s'ils allaient gagner, s'ils allaient participer au gouvernement. Ils allaient même gagner pour gouverner. Donc ce questionnement sur l'écologie et le pouvoir est pour le coup un questionnement historique qui est plutôt sain d'une certaine manière, parce qu'on a vu aussi les dérives de il faut gouverner pour gouverner, mais on perd le fil de pourquoi on a été élu. On l'a vécu il n'y a pas si longtemps. En revanche, c'est aussi un frein dans l'exercice de fait des responsabilités. Je crois que ça a franchi un cap lors des dernières élections municipales, parce qu'il y a aujourd'hui parmi les plus grandes villes de France qui sont gouvernées par des maires écologistes.
Oui, vous l'évoquez, Cécile Duflot, cet écart entre la réticence au plan national, en s'engager sur ce terrain-là, et au contraire, le sentiment qu'il y a deux élections de niveaux électoraux qui sont, disons, naturelles pour les écologistes, le local, le municipal, et l'européen. Alors, au niveau européen également, on a au contraire une espèce d'aisance des écologistes. C'est quoi ? C'est parce que le scrutin est proportionnel, parce que la dimension européenne est essentielle ?
Alors d'abord, il y a quelque chose de fondamentalement juste, qui est que les enjeux auxquels on doit faire face si on veut un futur écologiquement soutenable, ils ne se gèrent pas au niveau national. Ils se gèrent à minima au niveau continental, et l'Europe était un débouché naturel. C'est aussi un débouché, on l'a vu notamment dans les deux campagnes de Daniel Cohn-Bendit, très lié à la dimension pacifiste. L'histoire de l'Europe, c'est l'histoire de la fondation de la paix finale entre la France et l'Allemagne. Et donc du coup, là aussi, on fait totalement écho au patrimoine collectif. Donc il y a une aisance effectivement à se projeter dans ce type d'institution. Et puis aussi sur la manière de prise de décision. C'est un vrai parlement, vraiment à la proportionnelle, avec des coalitions, ce qui correspond plus à l'état d'esprit, y compris interne, et donc de formation des militants et des responsables, qui est celui de l'écologie politique depuis sa construction.
Mais en même temps, Alexis Vrignon, quand on voit ce parcours, il y avait l'idée quand même qu'on était, entre guillemets, indépendant, et à travers les élections municipales ou à travers les élections nationales, on voit bien que l'indépendance des écologistes par rapport à ce qui est la gauche est quelque chose qui a du mal à s'affirmer. Et ça va être une tension interne au sein du mouvement écologiste.
Et tension structurelle, hein, elle commence dès l'entre-deux-tours avec René Dumont, avec la question de savoir est-ce que on doit se prononcer pour François Mitterrand, ce que René Dumont fera à titre personnel, les écologistes disant non, on ne se prononce pas parce qu'on n'est pas d'accord avec les options qui sont défendues.
Mais on n'est pas d'accord. C'est le refus d'une ni droite ni gauche ou c'est autre chose?
C'était pas forcé. Alors il y avait une part de ne pas se positionner sur l'échiquier politique, mais c'était aussi parce que la gauche, dans son ensemble à ce moment-là, était une gauche productiviste, qui considérait que la croissance était essentielle. Il y a un dialogue justement entre François Mitterrand et René Dumont qui est très intéressant à ce moment-là, parce que François Mitterrand dit « la croissance est essentielle pour les classes populaires » et on ne peut pas l'opposer.
Je vous interromps une seconde. Rappelez qu'on est à ce moment-là dans le cadre du programme commun de la gauche, passé entre le Parti Socialiste, le Parti Communiste et les Radicaux de Gauche. Donc c'est vrai que c'est un contexte qui est encore très, entre guillemets, trente glorieuses.
Ah, complètement. Et on a un personnel politique qui est marqué, qui a été socialisé politiquement dans cette question-là, qui peuvent s'opposer sur la répartition de la croissance, mais qui, dans son ensemble, considère que la croissance, c'est l'avenir pour les classes populaires, et ils en sont sincèrement convaincus. Ce qui, effectivement, étant une ambiguïté qui va durer longtemps dans cette question des alliances avec la gauche, qui vont se faire petit à petit, mais beaucoup plus tard, finalement, à partir des années 90.
Et même avec une scission. Il faut jamais l'oublier, c'est que le candidat à la présidentielle, qui est Antoine Wechter, qui fait le meilleur score juste après Noël Mamère, va quitter le parti et fonder un autre parti. Donc c'est un mouvement qui est jeune et qui est marqué par une scission, qui est une scission profonde pour les militants eux-mêmes, parce que c'est vraiment une des figures fondatrices du parti, qui quitte le parti et qui crée un autre parti.
En deux mots, quel était le motif de cette scission ? Comment, sur quoi elle se joue ?
Alors, on parle souvent, alors je voudrais, sûrement des militants de l'époque vont m'écouter, si j'ai bien compris, la motion qui a été adoptée, c'était pas une motion qui disait « désormais nous faisons les accords avec la gauche », c'est une motion qui réaffirmait la possibilité de faire des accords, mais excluait la possibilité de faire ces accords avec la droite. Donc c'était pas la décision donc en gros de Cochet-Voynet de dire on va faire des alliances à gauche, c'était de dire on exclut désormais de faire des alliances avec la droite. C'est ce moment-là qui marque la rupture avec la ligne que incarnait Antoine Wechter et qui s'appelait le ni-ni, c'est-à-dire ni gauche ni droite, mais qui de fait permettait de faire tacitement des alliances avec la gauche et avec la droite, en particulier en Alsace, qui était la région d'origine d'Antoine Wechter.
Et à ce moment-là, Alexis Brignon, on a quand même quelque chose qui va plus vers la gauche que ça ne l'était au départ.
Absolument. À partir des années 90, finalement, notamment la socialisation dans les exécutifs locaux des écologistes va se faire dans le cadre d'alliances avec la gauche. Et on a eu un cycle là qui est ouvert dans les années 90, qui va durer jusqu'aux années 2010 d'alliances. Alors, alliance conflictuelle, hein, ça excluait pas des problèmes divers et variés, mais alliance privilégiée avec la gauche qui dure encore à l'heure actuelle, mais sous une autre forme, finalement.
Pourquoi vous dites 2010, Alexis Brignon ? Quelle est la rupture en 2010, ou l'évolution ?
Dans ces années 2010, en fait, la rupture, enfin, en tout cas, l'épreuve, mais Cécile Duflot pourra en parler beaucoup mieux que moi, parce qu'elle était vraiment totalement investie dans ses affaires, c'est l'épreuve du pouvoir, en fait, et les conflits, les désaccords qui naissent de cet exercice du pouvoir dans le cadre de la mandature de François Hollande, qui va aussi marquer, finalement, tous ces écologistes, sur l'idée que certes, maintenant, ils ont une identité de gauche, mais que du coup, l'alliance avec le Parti Socialiste, qui en plus s'affaiblit dans les années 2010 aussi, donc forcément, les modalités de l'alliance changent. On n'est plus sur un partenaire junior, on est sur un partenaire qui veut s'affirmer comme un partenaire au moins à part égale, si ce n'est supérieur au Parti Socialiste.
On va venir à l'exercice du pouvoir, mais juste pour resituer encore toutes les tensions au sein de ce mouvement, on a beaucoup parlé, alors on reprend les termes allemands, les Fundi et les Realo, les radicaux, pour traduire un peu rapidement, et les réalistes. Qu'est-ce qui fait, à vos yeux, Alexis Vrignon, que ce qui a pu être surmonté, ou une forme de synthèse qui s'est faite en Allemagne et qui ne s'est pas faite en France, ou qui reste en tout cas, et on le voit encore aujourd'hui, qui reste un nœud de tension au sein de ce mouvement.
Alors, il y a des rapports aux partis qui sont différents. Hein. Les Verts français sont un parti qui reste un petit parti finalement, avec au maximum peut-être une dizaine de milliers d'adhérents, au maximum quelque chose comme ça, alors que les Verts allemands sont beaucoup plus importants. Donc ça induit un rapport au groupe, à la discussion qui est fatalement différent, un rapport aussi aux exécutifs et à la conduite des affaires qui est aussi différent et qui va permettre de solder finalement ces questions-là dans l'exercice du pouvoir, notamment avec la coalition avec Gerhard Schröder, avec donc Joschka Fischer qui incarnait cette ligne qui, du coup, a perduré. Alors qu'en France, l'accès s'est fait avec des exécutifs locaux, mais finalement dans un contexte où effectivement les différents groupes régionaux avaient plus d'autonomie, et donc finalement, ces querelles ou ces désaccords, ils pouvaient perdurer beaucoup plus longtemps.
Elle est
Moi, je suis pas du tout d'accord avec cette analyse parce que elle fait abstraction complète du système électoral. En 1993, avec un score supérieur Les Verts français ont 0 député, les Verts allemands en ont, je crois, 50 ou 60. Donc en fait, le système électoral français est fait pour freiner l'émergence de nouveaux partis, et ça a été très efficace. On a oublié un petit point aussi, c'est quand les Verts commencent à émerger électoralement, autour de François Mitterrand, on fait naître un autre parti concurrent, qui s'appelle Génération Écologique, qui est, on le sait maintenant, une organisation totalement téléguidée, qui va emmener l'écologie...
Qui était dirigée par qui ?
C'est Noël Mamère, Brice Lalonde et Harlem Désir. On a oublié, mais Harlem Désir était à Génération
Écologique. Mais c'est-à-dire parmi les fondateurs historiques de l'écologie en France ?
Non, non. À part Brice Lalonde, Noël Mamère et Harlem Désir font pas...
Non, mais Brice Lalonde, c'est...
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, il y a vraiment eu la volonté de freiner l'ascension électorale et de la laisser à un niveau gérable. Et donc, on dit souvent que c'est les dissensions au sein des écologistes. Elles existent, c'est vrai, mais c'est pas seulement ça. C'est aussi la grande difficulté pour accéder aux responsabilités nationales. Il n'y a pas d'élection proportionnelle à l'Assemblée. D'ailleurs, un autre parti qui a vécu exactement la même histoire, c'est le Rassemblement National, enfin le Front National, qui était dans une situation parallèle, c'est-à-dire avec un score très élevé et pas de représentation à l'Assemblée, sauf en 86, quand il y a eu la proportionnelle. Donc il faut faire très attention, d'autant que je pense que le débat, pour être très franche, le débat Réal au Fundi chez les Verts français, il n'existe pas. Pour une raison simple, les courants internes des Verts se recomposent à chaque congrès. Quasiment à 80%. Pour le coup, là, je le dis souvent, et je le dis à ceux qui travaillent, c'est vraiment une analyse erronée, parce que ça aurait été justifié comme si ça avait existé comme dans d'autres partis. Vous étiez fabusien, vous naissiez fabusien et vous mouriez fabusien. On peut débattre de la ligne politique.
Vous parlez du Parti Socialiste.
Mais chez les écologistes, ce parallèle avec les Verts allemands est vraiment, vraiment erroné.
Je l'imaginais pas, enfin, je ne le concevais pas en termes de courant, mais en termes de philosophie d'action. On l'a vu encore lors de la dernière élection présidentielle, l'écart qu'il pouvait y avoir entre le candidat Yannick Jadot et un certain nombre de militants actifs ou de responsables du mouvement. Je pense à Sandrine Rousseau, notamment, qui était vraiment dans des postures
différentes. Puisque le problème, c'est moins des questions de ligne politique que des questions de positionnement personnel. Pour une raison que moi j'appelle la maladie de la minorisation, c'est-à-dire que les écologistes politiques se sont toujours pensés comme minoritaires. Ce qui les a rendus extrêmement résistants. C'est comme une tortue. C'est-à-dire qu'ils ont pu résister à des 1% aux élections. Quasiment, moi, quand je suis devenue secrétaire nationale, on était en faillite financière. Mais ils ont une capacité de résilience énorme. Tous ceux qui ont pensaient qu'ils allaient mourir, ils n'ont jamais disparu. En revanche, ça a deux symptômes, comme la varicelle, c'est les boutons et la fièvre. La minorisation, ça aboutit au sectarisme et à l'opportunisme. Comme vous pensez que vous n'allez jamais gagner ensemble, vous avez la tentation de récupérer des postes quand on vous les donne. C'est pour ça que les écologistes, enfin les Verts, ont été capables de disperser des personnalités dans à peu près tout le spectre politique, parce qu'à un moment ou un autre, on vous achète, entre guillemets, en échange d'un poste. Et si on le regarde, ça peut... Enfin, moi, je trouve que c'est pas très glorieux, mais il faut essayer de le prendre un peu avec le sourire. Et la deuxième chose, c'est le sectarisme. C'est-à-dire que les écologistes ont tendance à penser que le principal ennemi, c'est celui qui ne pense pas exactement comme vous. Mais pour exister, alors là, pour le coup, c'est une tactique médiatique, la meilleure des méthodes, c'est de taper sur l'écologiste le plus voyant. Et ça, ça a été pratiqué dans toute l'histoire des écologistes, depuis Maryse Arditi jusqu'à Francine Bavet, en passant par Jean-Vincent Placé. Nicolas Hulot et Eva Joly, on se souvient de tout ça. Donc, il y a une capacité, j'allais dire, à aussi donner de l'espace médiatique à ceux qui critiquent les uns et les autres, qui est tentante si vous avez envie d'exister médiatiquement.
Alexis Vrignon, alors, on a le sentiment, en écoutant Cécile Duflot, qu'on a du mal à passer un programme à vocation majoritaire. On est sur une dynamique, on dirait un programme à vocation minoritaire, un peu. C'est ça la difficulté.
La difficulté qui ne faut pas imputer qu'aux écologistes, en fait, c'est aussi la force d'une sorte de consensus productiviste en France, en fait, parmi les différentes formations politiques, autres que les écologistes, et parmi une partie de l'opinion qui peut voir les dégâts du progrès ainsi de suite, mais le changement que devrait impliquer justement la fin de ce consensus productiviste est complexe, complexe à mettre en œuvre et complexe pour se projeter finalement dans l'après.
En même temps, il y a une évolution. Par exemple, aujourd'hui, une partie des courants de gauche parle d'éco-socialisme. Et c'est venu d'une partie de l'extrême gauche. Donc on a des idées qui se diffusent beaucoup plus largement que chez les écologistes. Alors, Alexis Vrignon.
Ces idées se diffusent. Ces idées se diffusent déjà depuis longtemps. Mais on peut le remarquer, restent minoritaire dans les élections finalement, que ce soit des élections comme les élections législatives ou au présidentiel, où il y a ce cette difficulté-là, d'ailleurs, c'est que les écologistes sont présents et se disent il faut être présent parce que c'est une élection reine, mais en faisant un petit score, eh ben, leurs opposants leur disent, ben, regardez, la preuve est faite par l'exemple, vous faites 2, 3, 4%. Et donc, c'est vraiment une des difficultés, finalement, qui est difficile à résoudre, finalement, pour cette tendance.
C'est une difficulté de conviction, Cécile Duflot, parce que il y a d'autres courants et d'autres personnes qui ont fini par émerger, alors, et même à construire des partis politiques.
Il faut quand même dire deux choses, et je suis là totalement d'accord avec Alexis Vrignon. Il y a peu de courants politiques qui ont fait l'objet de autant de volonté et autant d'énergie et autant d'argent dépensé. Il y a maintenant un certain nombre de gens qui le montrent, le travail de lobbying de certaines entreprises dont elles savaient que leurs intérêts financiers risquaient d'être atteints par la prise de pouvoir des écologistes, qui ont été vraiment très importants. Donc il y a eu le consensus productiviste dont parle Alexis Vrignon, plus énormément de moyens dépensés pour fragiliser les écologistes. Pour une raison simple. Ce qui est intéressant quand on se retourne maintenant et qu'on lit René Dumont ou qu'on lit évidemment ce qu'ont dit les scientifiques du GIEC, tout ça c'était vrai. Enfin pardon, mais ils avaient raison. Ils avaient raison. Et de manière quasiment littérale. Alors il y a des différences de temporalité, mais sur le fond, sur l'impact, sur la perte de biodiversité, sur les questions de sécheresse, sur le modèle, l'épuisement du modèle agricole, sur les conséquences, sur les migrations, sur... Enfin,
mais
ils
tout ça
raison.
Est un peu
donc,
paradoxal.
Donc c'est
justement.
Facile de dire. Oui, pour une. Enfin, je trouve que c'est intéressant de se dire qu'il y a un double mouvement. Il y a cette espèce de fragilisation des écologistes par eux-mêmes, qui ont été tellement attaqués qu'ils ont pris l'habitude de pouvoir faire facilement citadelle assiégée, mais d'être moins à l'offensive, c'est-à-dire d'intégrer les critiques. Et comme vous l'avez dit, de vouloir prouver scientifiquement, de vouloir prouver qu'ils sont des bons élèves, qu'ils savent gérer, etc., etc. Mais parallèlement, il y a eu aussi une énorme machine faite pour essayer d'écraser l'émergence de solutions qui allaient évidemment remettre en cause un système qui est assez satisfaisant. On est aujourd'hui dans un moment de prédation très importante d'une partie des richesses naturelles, mais aussi des richesses financières, au profit d'un certain nombre de milliardaires, de très grandes entreprises, qui pèsent aussi sur les décisions de politique publique, qui ne payent pas les impôts qu'ils doivent, etc. Quelle est leur stratégie ? D'acheter les médias de manière massive pour imposer un discours. C'est qu'ils ont bien fait l'analyse, qu'ils ont besoin de tenir une partie de l'expression publique pour éviter que des situations de monopole ou profit indécent craque. Et on a la même chose vis-à-vis d'un système agricole, par exemple, qui pourtant a mis aussi en péril les agriculteurs eux-mêmes, qui tenaient très très fortement pour essayer de lutter contre justement la diminution réelle des pesticides.
Et
ce qui s'est passé
pas
avec les néonicotinoïdes
c'est
est
la
édifiant.
Difficulté à lier cela avec une question sociale, parce que par exemple, on peut avoir, si on prend un Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui ou la France Insoumise, un discours qui est extrêmement écologique et qui a réussi à passer la barrière même des médias, comme vous dites, et qui en même temps portent des choses avec lesquelles vous pourriez être en accord.
Ça nous emmènerait un petit peu plus loin sur faire l'analyse du moment et justement d'un choix qui a été très différent de la part de la France Insoumise, qui a été de privilégier, même de manière extrême, la question de l'incarnation. De manière très très forte, c'est-à-dire vraiment de façon complètement inversée, et l'absence de démocratie interne de manière complètement inversée au choix des écologistes.
Et c'est ça la faiblesse alors du coup.
Est-ce que, enfin moi j'ai un gros débat sur la fin qui justifie les moyens, je pense qu'il faut être attentif quand même, parce que de fait Jean-Luc Mélenchon il n'est pas non plus président de la République. Ok, il a fait des bien meilleurs scores, mais il n'est pas président de la République, donc je pense pas qu'on puisse dire que ça a marché versus la stratégie des écologistes qui, eux, à l'inverse, sont maires de beaucoup des grandes villes de France. Donc, il y a matière à discuter. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de solution évidente. En tout cas, ce qui est sûr et ce qu'il faut dire, c'est que il y a des manifestes sur lesquels on se retourne en se disant, bon, c'était sympa pour l'époque, mais bon, c'était quand même un peu à côté de la plaque. Le manifeste de René Dumont, ce qu'ont dit les écologistes à l'époque sur les dangers d'un système qui nous emmenait dans le mur, c'est aujourd'hui avéré. Voilà. Et donc, on peut reconnaître qu'ils n'ont pas gagné.
C'est pour ça, du reste, qu'on l'a choisi.
Mais qu'ils avaient raison.
Non, mais ça, c'est d'ailleurs assez saisissant à la lecture. Vous avez raison. Oui. Mais alors, il y a une chose qui a quand même considérablement changé depuis 50 ans. C'est qu'il y a 50 ans, tout ça paraissait extrêmement lointain, qu'aujourd'hui, tout ça paraît extrêmement urgent et anxiogène. Et pourtant, le mouvement écologiste, on vient d'en discuter, a du mal à sortir de ce rôle soit de témoin, soit de poil à gratter, soit etc. Est-ce que au fond les écologistes sont condamnés, Alexis Vrignon, à vos yeux, à être ou à rester des lanceurs d'alerte?
Je me garderais bien de tirer des enseignements pour l'avenir qui n'est pas encore écrit, mais de fait, la situation des écosystèmes se dégrade et il y a une série de militants qui existent en France dans plein de domaines, dans plein de territoires, qui ont une expertise, qui ont un savoir-faire militant, qui sont là, dont on peut espérer qu'ils seront un peu plus entendus et de manière urgente pour que justement ils puissent avoir des réorientations possibles telles qu'elles étaient annoncées finalement depuis longtemps.
Alors, moi, je suis attentive à comment, et c'est mon expérience gouvernementale qui m'a montré. D'abord, je suis pas sortie déprimée du gouvernement, au contraire.
J'ai perdu quelques illusions, semble-t-il, quand même.
Sur François Hollande et sur sa sincérité à essayer de faire même le minimum de ce à quoi il s'était engagé, oui, un peu, mais.
Et sur l'exercice du pouvoir.
Mais pas sur l'exercice du pouvoir. Enfin, je veux dire, la loi Allure, et notamment un certain nombre de dispositions qui ont été peu vues, parce que le choix tactique, maintenant, il y a prescription, donc je peux le dire, que j'ai fait, c'est de hurler très fort quand Manuel Valls a remis en cause l'encadrement des loyers pour que tout le reste se poursuive. Et tout le reste s'est poursuivi. Et c'est justement qu'on peut faire des choses. Que pour le coup, le discours, on peut rien décider par le gouvernement, on peut faire des choses. La meilleure des méthodes pour le prouver, c'est qu'il y a énormément d'argent déployé en lobbying, que si jamais les élus servaient à rien, eh ben, il n'y aurait pas tout cet argent déployé en lobbying. Pourquoi les choses changent? Parce que la moitié de la promotion de Polytechnique a tourné le dos au PDG de Total quand il est venu faire un speech au moment de la remise de leur diplôme. Et ça, vous vous rendez pas compte, parce que j'ai coutume de dire maintenant que, en fait, être écologiste en 2023, c'est juste avoir un cerveau et lire. Voilà. Et pardon d'être brutal, mais j'ai plus de patience maintenant. J'ai plus de patience et je l'ai eu pendant des dizaines d'années avec ceux qui disent oui, mais est-ce que t'es sûr que c'est pas si sûr? On est plus que sûr. Et maintenant, on a la sous le nez. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a tout un mouvement d'une jeunesse qui est très importante, et notamment de ceux qui ont vocation à exercer des responsabilités, qui sont complètement transformés. Donc je pense qu'on est à l'aube d'un moment justement où on pourrait, ce qui n'a jamais réussi à exister dans le monde, élire à la tête de l'État un ou une responsable qui aurait l'écologie comme cap d'action dans la politique publique.
Gérard Courtois, Cécile Duflot dit qu'elle n'a plus de patience et en même temps le manifeste de René Dumont, c'est une mèche lente qui produit encore des effets.
Ah, qui n'a pas pris une ride. Protection de l'environnement, développement durable, nécessité d'une économie plus respectueuse des ressources, des équilibres de la planète, autant de questions soulevées il y a 50 ans par René Dumont et autant de questions qui sont plus que jamais au cœur du débat politique et des inquiétudes collectives. Mais cette indéniable prise de conscience, cette sorte de centralité culturelle, contraste évidemment et cruellement, on l'a vu, avec une forme de marginalité politique des mouvements écologistes, en tout cas en France. René Dumont appelait de ses voeux un mouvement capable de faire advenir, je cite, une autre civilisation, une ambition immense, et on est évidemment encore loin du compte. Cette utopie, et Cécile Duflot vient de le rappeler avec énergie, s'est heurtée et se heurte encore à de très lourdes réalités, et notamment la résistance d'intérêts économiques puissants, mais aussi, ce qu'elle a évoqué de manière plus allusive, l'attitude, disons, timorée ou velléitaire d'un certain nombre de gouvernements. Donc plus que jamais, l'urgence climatique impose de donner désormais toute sa place à l'écologie politique. C'est en tout cas la conclusion qu'on peut tirer de ce débat. Et il nous reste à remercier Cécile Duflot et Alexis Vrignon de nous avoir accompagnés aujourd'hui.
France Culture, les manifestes qui ont changé le monde. À retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
C'était Les manifestes qui ont changé le monde, une émission de Gérard Courtois et Didier Lesky, préparée par Seam Boutata, avec Guillaume Baldi à la réalisation et Dali Yaha à la technique. Demain, la déclaration d'indépendance du cyberespace.